Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous avez cliqué sur le bouton écouter. Merci. Et bonjour, bien entendu, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 580. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, des idées. Et vous savez que je suis là pour vous aider à les développer, à les faire connaître, à les montrer au monde entier. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler vraiment d'un problème que nous avons, mais quasiment tous. Vraiment quasiment tous. Et je suis sûr que vous allez vous reconnaître dans l'exemple que je vais vous donner. Quand nous créons du contenu, nous nous concentrons souvent sur ce que nous croyons être le contenu. Et ce que nous pensons être le contenu, c'est toujours la vidéo, l'audio du podcast, le texte du billet de blog. Et je vais vous dire dans cet épisode ce qu'est vraiment le contenu, et ce n'est pas ça. Le contenu, ce n'est pas seulement ça. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Combien de fois avez-vous déjà fait cette expérience? Vous filmez une vidéo, vous la montez, vous la publiez sur YouTube, vous savez, vous appuyez sur le petit bouton « mettre en ligne ». Il vous reste alors quelques minutes devant vous, vous êtes pressé parce que vous avez passé beaucoup de temps sur les étapes précédentes, vous êtes pressé de publier votre vidéo, vous ajoutez rapidement un texte, des mots-clés, vous bidouillez un petit titre, vous bidouillez une vignette ou encore vous laissez à YouTube le soin de vous mettre l'image automatique et vous publiez, vous appuyez sur le bouton publier, vous regardez ce qui se passe et vous attendez de voir ce qui se passe et si des gens viennent voir votre vidéo. J'aurais pu dire la même chose pour un épisode de podcast ou un billet de blog et je peux vous garantir qu'on l'a tous fait. Combien de fois les matins dans ce podcast, j'arrive, j'enregistre et au moment de publier, je me dis « Ah bah tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme titre ?» Combien de fois je l'ai fait ? Et à chaque fois que j'ai fait ça, je me rends compte quelque temps après que mon titre n'était souvent pas le bon, qu'il aurait pu être amélioré, qu'il aurait pu être optimisé. Et c'est exactement pareil pour un billet de blog et c'est exactement pareil pour une vidéo sur YouTube. Maintenant, voyons voir comment travaillent certains YouTubeurs. Alors, ils cherchent d'abord une idée, un sujet, un mot-clé sur lequel se positionner. Ils cherchent ensuite un titre, puis ils créent une vignette. Si l'ensemble peut inciter au clic, ils créent le contenu qui va avec, et sinon, ils oublient. Oui, ils oublient carrément l'idée. Alors, ça peut faire bondir les gens qui sont autour d'eux, qui travaillent avec eux, mais certains youtubeurs, et quand je vous parle de certains youtubeurs, je vous parle de youtubeurs à gros succès, qui font des millions de vues, travaillent exactement de cette manière-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout commence par un clic, et tout commence par le clic de « je vais regarder cette vidéo, je vais écouter cet épisode de podcast, je vais lire ce billet de blog ». Et ce clic, c'est qui le fait ? C'est la personne qui consomme le contenu. Et ce que nous recherchons à faire, c'est amener des gens à cliquer sur ce titre, à cliquer sur cette image, à écouter, à lire, à regarder ce que nous consommons. Tout ce que nous faisons comme boulot pour créer notre contenu n'est rien si personne n'appuie sur le bouton « cliquer ». Si personne n'ouvre le mail, personne ne lira jamais le mail. Si personne ne clique sur le titre de votre vidéo YouTube, personne ne regardera ce que vous avez fait derrière. Vous avez pu y passer des heures, vous avez pu y passer des jours. Ça ne sert à rien. C'est pareil sur un billet de blog, c'est pareil sur quasiment tout. Là où on a un très bon indicateur de mesure, c'est YouTube. L'indicateur de mesure de YouTube, c'est qu'il vous montre à combien de personnes il affiche votre vidéo et il vous montre combien de personnes ont cliqué sur le titre ou la vignette pour lire la vidéo. Et souvent, vous avez des chiffres qui sont extrêmement bas. Quand on regarde des chiffres, on a 1%, 2%. Bon, bah là, on se dit, franchement, c'est que ça attire pas. Parfois, YouTube peut vous amener à être vu, en tout cas que ces éléments-là soient vus par des milliers de personnes, et vous rendez compte que derrière, vous faites que quelques dizaines de vues, quelques centaines de vues. Ça veut dire qu'en fait, il y a un écart qui est extrêmement important, c'est-à-dire que YouTube, il a fait un premier boulot d'amener les gens, d'amener votre vidéo dans la liste des vidéos que les gens pourraient regarder, donc il a amené des gens sur votre vidéo, mais en fait, il y a un boulot qui n'a pas été fait, c'est votre boulot à vous, d'avoir fait un titre et une vignette qui soit tellement accrocheur que la personne ait envie de cliquer dessus. Et on pourrait rajouter la première ligne de la description aussi pareil. Et si vous ne faites pas ce boulot et que finalement personne ne clique dessus, au bout d'un moment, YouTube il va être lassé. Le boulot de YouTube, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, les algorithmes, c'est quoi ? C'est tout simple. C'est de dire qu'à un moment donné, il a Il doit fournir du contenu à des gens qui ont envie de regarder du contenu, mais si à chaque fois qu'il leur montre une vidéo, les gens ne cliquent pas sur le lien, ne cliquent pas sur le titre, ne cliquent pas sur la vignette pour ne regarder pas la vidéo, il va se dire que finalement ça ne les intéresse pas. Et donc votre vidéo va partir aux oubliettes. Alors sur les autres outils que nous avons comme le podcast, comme les mails, comme les réseaux sociaux et tout, on n'a pas ce fonctionnement-là précis, en tout cas cette mesure-là précise, mais pourtant... C'est le cerveau humain qui fait exactement la même chose. Le cerveau humain fait un tri exactement de cette même manière-là pour se dire, est-ce que ce contenu-là m'intéresse ? Et on est toujours en concurrence avec plein d'autres contenus. Toujours en concurrence. Chacun de notre contenu est en concurrence avec quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, en fait, ça peut être un autre contenu sur YouTube ou du podcast ou un billet de blog, mais c'est aussi un livre qui est posé sur la table de notre audience. C'est le fait qu'ils soient avec leurs enfants ou pas à certaines heures. C'est le fait qu'ils veulent regarder une série sur Netflix. C'est le fait qu'ils ont peut-être plus ou moins de temps, etc. Il y a plein d'éléments qui vont jouer dedans. Mais en fait, choisir de regarder, de lire, d'écouter ce que nous faisons est toujours un choix. Et ce choix, le cerveau le fait toujours en fonction de quelque chose qui va l'attirer, quelque chose qui va lui donner envie de le faire. Et donc, c'est pour ça que pendant longtemps, sur YouTube, il y a eu cette mode du clickbait, mais qu'on a connu aussi sur les blogs, qu'on a connu sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est vous n'allez jamais deviner, vous n'allez jamais croire ce que vous allez, ce qu'il y a dans cet article. Cliquez sur ce lien pour découvrir le secret incroyable de telle ou telle personne, etc. Bon, ça s'est passé un petit peu parce que ces titres putaclic, en fait, ils ont fini par être punis par les outils, tout simplement parce que souvent, il y avait un titre qui attirait les gens, et puis quand les gens étaient dans l'article, c'était très déceptif, il n'y avait rien. L'algorithme de YouTube, si on revient dessus, il fait vraiment un match entre ce qui est mis dans le titre et la vignette, et ce qu'il y a vraiment dans le contenu derrière. Si on se rend compte que, si l'algorithme se rend compte que le contenu n'est pas bon, ne va pas avec la vignette et le titre, il va le sanctionner, il va arrêter de le montrer. Et il a plusieurs manières de le mesurer, il peut le mesurer sur le contenu lui-même en essayant de lire, d'écouter un petit peu ce qui se raconte dans la vidéo, de regarder, d'analyser un peu les images, mais il va aussi tout de suite le voir aussi avec, finalement, si l'audience, elle s'en va dès le début. Si vous faites une accroche très intéressante dans votre titre de vidéo, dans votre vignette, mais que dans les premières secondes, les gens s'en vont, il va s'en rendre compte, il va se dire, c'est qu'il y a une déception, c'est que les gens n'ont pas ce qu'ils voulaient, etc. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette réflexion-là, elle marche aussi pour votre épisode de podcast, elle marche pour un billet de blog. Dès les premières lignes de votre billet de blog, dès les premières secondes de votre billet de blog, vous devez annoncer vers où vous allez, vers où vous voulez amener votre lecteur, vers où vous voulez, vers quoi vous voulez le faire tendre, vers quoi vous voulez, sur quoi vous voulez qu'il réfléchisse, sur quoi vous voulez l'aider, comment vous allez l'aider. Vous pouvez lui mettre un peu de teasing pour le faire rester jusqu'à la fin, mais dès le départ, il faut lui balancer la sauce, j'ai envie de dire. Faut pas rester sur le truc en disant alors, on va parler un petit peu de ça et tout, mais il faut lui en donner dès le début vraiment en lui disant voilà vraiment précisément de quoi je vais vous parler dans cet épisode, de quoi je vais vous parler dans ce billet de blog, de quoi je vais vous parler dans cette vidéo. On n'est pas dans les histoires au cinéma où il faut attendre la dernière seconde pour avoir le suspense final, etc. Parce que là, on n'est pas coincé dans une salle de cinéma à attendre que la fin du film se passe. Non, quand on est sur ces outils-là, à un moment donné, on a vraiment envie de savoir dès le départ, vraiment ce qu'il y a. Et regardez combien de fois vous regardez une vidéo en vitesse x2, combien vous écoutez peut-être les épisodes de podcast en 1x3, 1x4 ou je ne sais quoi. Donc, ce phénomène-là, vous le connaissez très bien. Et quand vous lisez un billet de blog, vous savez toujours que vous le lisez toujours vraiment en diagonale, en Z, en tout ce que vous voulez. Puis que si vraiment il semble intéressant, vous allez revenir plus sur le début pour vraiment le lire, vraiment le lire. Et c'est même pareil, j'ai envie de dire, sur les stories sur Instagram, elles ont beau faire 10 secondes, il y a les stories qui paraissent tellement longues qu'on a envie de les passer au plus vite possible. Donc, partout, systématiquement, il y a cette notion-là de se dire, vraiment, il faut que j'arrive à faire cliquer les gens sur mon contenu, et puis derrière, ensuite, il faut pas que je les amène sur la déception. Mais ce que je voulais vraiment vous amener là-dessus, c'est de vous faire réfléchir à ce premier clic. Qu'est-ce qui fait que les gens vont cliquer ? Qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir envie de consommer votre vidéo, votre podcast ? Et c'est vraiment le titre, la description, la vignette, suivant là où on est. C'est vraiment, selon les supports, c'est vraiment ça qui va jouer. Et ça nous amène à redéfinir ce qu'est vraiment un contenu. C'est-à-dire que quand on parle de création de contenu, en général, on se concentre sur le fait qu'on crée une vidéo, on crée un podcast, un audio du podcast, on crée un billet de blog, on écrit du texte. Et Là, vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas ça un contenu. Un contenu, ce n'est pas seulement de la vidéo, ce n'est pas seulement du texte, ce n'est pas seulement un audio de podcast. Non, on va redéfinir ce que c'est un contenu, et un contenu, vraiment, c'est tout ce qui amène les personnes, notre audience, nos fans, nos super fans, à lire et cliquer pour découvrir ce que nous avons à partager avec elles. Et c'est quoi cette personne, ce qu'elle va avoir envie de découvrir? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir quand vous écoutez un épisode de podcast? Eh bien, c'est du contenu qui va vraiment vous intéresser et je dois vous donner les éléments qui vont vous décider à cliquer sur le bouton écouter, sur le bouton télécharger, sur le bouton regarder, sur le bouton lire. Systématiquement, c'est ça. Imaginez que le titre que la vignette, c'est finalement un gros bouton lire, écouter, regarder. Mais c'est pareil sur Netflix. Regardez le travail que fait Netflix sur les vignettes qui changent en fonction des personnages que vous aimez bien, des séries que vous aimez bien. Ils vont changer la vignette des programmes, ils vont changer peut-être même le titre, la description, ils vont vous mettre des choses en avant, etc. pour vous amener à cliquer sur des programmes qui leur semblent intéressants pour vous. Et Netflix travaille aussi beaucoup sur la difficulté que l'on a, sur la fatigue autour de ça. J'en avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, ce problème-là, il est connu de tout le monde. Tout le monde le connaît. Et vraiment, j'ai envie de dire, si on veut revenir sur des choses qui ne sont pas numérique, prenez des livres, regardez des livres. Même dans votre bibliothèque, je suis sûr qu'il y a des livres que vous avez plus envie d'ouvrir que d'autres, tout simplement parce que la couverture est plus réussie, parce que la couleur vous attire plus, parce que le titre est plus intéressant. Allez vous balader quand vous le pourrez dans un magasin de livres, une librairie, vous allez voir, c'est rempli de livres qui finalement sont tous là à vous attendre, mais certains ont des couvertures qui vous accrochent, ça peut être par le titre, ça peut être par l'image, ça peut être par le nom de l'auteur, ça peut être par la promesse, ça peut être par la couleur, ça peut être aussi, vous savez, par ce petit papier marqué « choix du libraire » dessus, la recommandation du libraire, des fois ils mettent des petits cœurs, des fois ils mettent un petit post-it pour vous dire pourquoi vous devriez lire ce livre, et puis vous savez, vous avez les petites bandes rouges, là, c'est généralement sur les couvertures des livres, vous savez, qui étaient au départ des trucs de papier là, qui rajoutaient dessus, qui sont maintenant directement imprimés sur la couverture. Bon, vous voyez tous ces éléments-là. Donc, c'est pas que de l'Internet, hein, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à attirer les gens, et attirer les gens, ça a toujours existé ce problème-là. Toujours, toujours, toujours. Et on peut prendre un commerce physique, on peut prendre un spectacle, on peut prendre n'importe quoi. Toujours, systématiquement, on peut dire que le contenu n'est pas ce que l'on appelle le contenu, mais le contenu, c'est tout ce qu'il y a avec qui va amener les gens à vouloir prendre le produit dans les mains, pouvoir télécharger, le lire, l'écouter, etc. Et donc, si on revient sur Internet, eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre définition du contenu? Un titre, l'image, l'intro, et là, oui aussi, vidéo, l'audio de la du podcast, le texte du blog, etc. Oui, 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 ça rentre dans le contenu, mais le titre, l'image, l'intro, les mots-clés, les méta-tags, etc. font aussi partie du contenu au même titre. Et vous devez donc travailler sur l'optimisation de l'ensemble. Et pas seulement sur l'optimisation de dire j'ai écrit un beau texte, j'ai fait une belle vidéo avec un beau montage, etc. J'ai mis un beau son ou quoi que ce soit. Non, ça ne sert à rien si le titre et la vignette de votre vidéo ne donnent pas envie de découvrir ça. Parce que finalement, ben, tout commence par un clic, je le répète. Ce clic-là, c'est ce clic de dire « oui, je veux regarder cette vidéo. Oui, je veux écouter cet épisode de podcast. Oui, je veux lire ce billet de blog. Oui, je veux ouvrir ce mail. » Et donc, tout ce que vous devez faire au départ, c'est commencer par vous demander comment vous allez faire. Et c'est là que je voudrais vraiment vous amener, et je vous ai donné l'exemple du YouTuber au début, c'est de dire que vraiment la réflexion, elle est différente de ce que l'on fait en général. Généralement, ce que nous faisons, oui, c'est que nous créons notre contenu. Puis ensuite, au dernier moment, on se dit « voilà, mais qu'est-ce que je vais mettre comme titre, comment je vais le partager, etc. » Maintenant, voici comment on devrait travailler. Et je vais vous donner un exemple d'un outil que j'aime beaucoup, qui s'appelle Morning Fame, qui est un outil, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, qui est un outil qui permet de programmer ses vidéos, de se demander quelles vidéos on doit faire, etc. C'est vraiment un outil qui est très pratique pour penser ses vidéos, qui est sur inscription, sur invitation, donc je vous mets un lien d'invitation dans la description de cet épisode, dans la note de l'épisode, je vous mets un petit lien. Donc, ça s'appelle Morning Fame, je crois que vous faites votrecoachweb.com/morningfame, tout attaché, vous allez tomber dessus, mais bon, venez voir le lien, vous, pour être sûr d'avoir le bon lien et le bon code d'invitation. Et donc, voici la méthode préconisée par Morning Fame pour avoir du succès sur YouTube. Et en fait, c'est un outil, donc vous suivez les étapes, et je vais vous donner les étapes très clairement. Donc la première étape, c'est d'abord de définir un mot-clé, une expression sur laquelle on veut se positionner sur YouTube, c'est-à-dire une recherche sur laquelle on cherche à se positionner. Et donc on doit commencer par faire cette recherche-là, de définir un premier mot-clé. Là, il va faire des analyses pour nous dire voici à peu près les résultats, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, etc. À partir de là, il va nous faire affiner les mots-clés pour que la recherche de YouTube nous place au bon endroit. Ce qu'il est le bon endroit, c'est des recherches qui sont en quantité minimum, c'est-à-dire suffisamment de recherches, le fait qu'il y ait des gens qui fassent vraiment cette recherche-là, mais peut-être pas trop par rapport à la taille de notre chaîne. C'est-à-dire que si notre chaîne est fait, elle a 200 ou 300 abonnés, aller se mettre sur une thématique où il y a des millions de recherches et il y a beaucoup beaucoup de concurrence, il va juger que c'est trop difficile pour nous. Il va plutôt nous inciter à venir nous mettre sur des mots-clés qui sont peut-être moins tapés, mais qui seront plus accessibles parce que il y aura moins de gens dessus. Donc c'est pour ça qu'il fait une analyse de la concurrence potentielle. Cette analyse, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous montrer aussi les autres vidéos qui existent. Il y a une vidéo qui s'appelle la Gateway. Et la Gateway, c'est quoi ? C'est une vidéo sur laquelle il faudrait se dire, on va essayer de passer par-dessus là. Donc c'est pas la vidéo la plus vue, c'est pas la vidéo qui a forcément le plus de succès, qui est la plus ancienne, la plus récente ou je ne sais quoi. C'est une vidéo en fait qui juge que nous, on peut faire mieux, tout simplement parce que on a le potentiel pour faire mieux par rapport à notre taille de chaîne, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, par rapport à notre historique, etc. de notre chaîne YouTube. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dedans ? Ensuite, on va définir un titre, on va définir le descriptif, on va définir les mots-clés pour vraiment, vous voyez, affiner parfaitement. Il va nous dire oui, voilà, là c'est bien, là vous avez des chances de passer par-dessus. Et puis ensuite, il nous fait passer une dernière étape qui est la vignette. Et là, au moment de la vignette, il affiche tout simplement les vignettes des 6 autres vidéos qui apparaîtraient, on va dire, sur les résultats de recherche, à peu près 6 autres vignettes. Et il va nous dire, maintenant vous ajoutez votre vignette et vous regardez, voilà, si franchement votre vignette, elle va sortir du lot ou pas. Est-ce qu'elle sort du lot ? Est-ce qu'elle donne envie d'être cliquée ? Est-ce que par rapport à celle d'à côté, elle va donner plus envie d'être cliquée ou pas ? Et à ce moment-là, vous pouvez la créer la vidéo. Car tout ce travail que je viens de vous donner, là, vous n'avez toujours pas créé la vidéo. Vous avez pensé votre vidéo. Vous avez défini un mot-clé, une expression sur laquelle vous avez envie de vous positionner. Vous avez affiné les mots-clés. Vous avez défini le titre, la description. Vous avez tout pensé. Et maintenant, quand vous savez exactement comment vous allez vous positionner, donc comment vous allez générer la chance de clic, j'ai envie de dire, comment vous allez mettre en place tous les éléments pour que les gens cliquent dessus, donc pour générer ce clic, là, oui, vous pouvez vous dire, voici maintenant ce que je vais donner aux gens par rapport qui ont cliqué dessus, quel contenu je vais leur mettre. Et donc, vraiment, ce que fait Morning Fame, il nous amène à créer le contenu et pas seulement la vidéo, et il nous amène à travailler comme font ces youtubeurs à succès que l'on regarde tant, c'est nous dire, finalement, qu'est-ce qui donnerait envie aux gens de cliquer ? Parce que je répète, sur Internet, tout commence par un clic. Voici donc un bon exercice à faire pour finir cet épisode. Quand vous avez une idée, voilà, vous avez vos idées, vous avez plein d'idées. Cherchez d'abord le meilleur titre, celui qui donnera envie d'être cliqué. Vous pouvez en chercher plein. Vous savez, il y avait des sites où on disait qu'ils demandaient à leur rédacteur de trouver jusqu'à 25 titres. Mais ce que disait pas la plupart des sites, c'est que est-ce qu'on trouve le titre à la fin de l'article ou au début de l'article ? La logique, ce serait plutôt d'abord de commencer par trouver le titre au début, avant la rédaction même du contenu. On se demande quel est le titre que l'on va mettre. Sur quel mot-clé on veut remonter, bien sûr, sur Google, par exemple, si c'est un article de blog, de podcast ou quoi que ce soit. Quel est le titre que l'on va mettre ? Quel est ce titre que l'on doit afficher vraiment pour que dans la liste de vidéos, dans la liste de podcasts, dans la liste de Google, etc., on ait envie de cliquer dessus, que quelqu'un ait envie de cliquer dessus. Et ensuite, on regarde, on se dit, est-ce qu'il y a une image d'accompagnement à mettre pour que ça clique dessus ? Alors, elle est plus ou moins importante suivant les supports. Elle sera beaucoup plus importante sur YouTube que sur le podcast. Elle peut être très importante dans le blog, mais encore que, YouTube, Google, il va pas mettre toutes les vignettes, etc. Alors, dans une liste de billets de blog sur votre blog, oui, la vignette peut avoir de l'importance. Dans une recherche sur Google, elle peut avoir moins d'importance. Ce qui peut avoir, par contre, beaucoup d'importance, c'est, vous savez, la première ligne, les petites méta, là, de début, la méta-description, la toute première ligne qui va apparaître, le début de votre phrase peut avoir ça. Sur un mail, c'est pas l'image qui va accrocher, par contre, c'est vraiment le titre et la première ligne qui peut, des fois, apparaître, par exemple, dans Google. Donc, vraiment, vous allez concentrer votre réflexion là-dessus. Vous allez trouver le meilleur titre, le formuler de différentes manières. Vous dire, est-ce que je peux mettre de la curiosité ? Est-ce que je peux mettre de la surprise ? Est-ce que je peux mettre une promesse ? Est-ce que je peux mettre... quels sont les éléments qui vont donner envie de cliquer dessus ? À partir de là, quand vous avez fait ce travail-là, vous allez dire, ce titre-là me semble être le meilleur. Vous pouvez demander à vos amis. Vous pouvez... si vous aviez du budget, vous pourriez même le mettre, vous savez, en publicité sur Google, mettre deux titres, voir lequel est le plus cliqué, etc., qui arriverait sur une page, etc. Si vous aviez un gros projet de contenu, vous le feriez. Vraiment, vous le feriez. Si vous avez un livre et vous hésitez entre deux titres de livre, vous allez acheter une publicité, vous allez mettre les deux titres en concurrence et vous allez voir lequel est le plus cliqué. Ça amène les gens sur une page, vous leur dites, bah voilà, laissez votre mail pour vous inscrire, etc. Enfin, pour que ça vous serve pas à rien. Vous pouvez le faire aussi avec les images. Si vous avez un livre, vous pouvez aussi le faire avec la couverture de votre livre. Faire un format image et regarder sur laquelle il clique. Ça marche aussi sur Facebook, ça marche dans plein d'endroits. Mais je veux dire que ça peut se tester. Ça peut se tester, se A-B tester, comme on dit. Faire une version A, une version B, ça peut se tester. Si vous n'avez pas le temps de le tester, si vous n'avez pas le budget de le tester comme ça, bah vous le faites tester dans votre entourage, ou déjà vous le testez vous en vous disant, bah tiens, si je le lis dans ma tête, ou d'abord, même mieux si je le lis à haute voix, lequel j'ai envie de cliquer, quel est celui qui me semble le meilleur? Et quand vous avez fait cette réflexion-là, à partir de là, vous allez pouvoir créer votre contenu. Parce que la suite de votre contenu, j'ai envie de vous dire, parce que je vous répète que votre contenu, c'est bien le titre, c'est bien la description, c'est bien l'image, et c'est bien ensuite l'audio, la vidéo, le texte, etc. C'est pas juste le contenu, c'est pas seulement de la vidéo, le podcast ou le bout de texte, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans l'ensemble pour que finalement, votre contenu dans son ensemble soit lu, regardé, écouté. Et avouez que bien sûr, c'est un gros boulot. Bien sûr, vous dites, oui, mais moi, j'ai envie de créer mon truc, là. J'ai envie de créer ma vidéo. J'ai envie de la publier, là, maintenant. Oui. Mais avouez que ça serait quand même mieux si votre vidéo, elle était regardée. Avouez que ça serait quand même mieux si votre podcast, il était écouté. Avouez que ça serait quand même mieux si les gens, ils ouvraient votre mail ou qu'ils lisaient votre article de blog et qu'encore mieux, s'ils cliquaient sur le petit bouton acheter, s'ils cliquaient sur le petit bouton suivre un lien ou je ne sais pas quoi. Et ben, ce travail-là, pour arriver à ça, ça commence par un clic. Et le premier clic, c'est que les gens, ils ouvrent le mail. C'est que les gens, ils regardent la vidéo. C'est qu'ils aient envie de recommencer à regarder la vidéo. C'est qu'ils aient envie de commencer à écouter le podcast. Après, vous avez un boulot à l'intérieur de ce contenu-là pour faire en sorte que les gens, ils restent jusqu'au bout. La rétention, que vous leur donniez envie de cliquer, les techniques de copywriting. Vous savez, pourquoi elles sont aussi importantes? C'est justement parce que dans le titre, dans la recherche du titre et la description, c'est d'abord de faire cliquer. Ensuite, on a le storytelling aussi, ensuite on a aussi le copywriting pour que les gens y restent dans toute la longueur du contenu. Mais vraiment, je vous le répète, tout commence par un clic. Alors voilà, c'est votre boulot du jour. Maintenant, il me reste à fermer ma bouche en espérant que vous créez des contenus géniaux en pensant vraiment à cette logique-là. Vraiment, je vous ai donné une méthode de travail. Essayez de l'appliquer. Regardez ce que ça donne pour votre prochain contenu. En plus, il y a un grand week-end qui arrive peut-être. Je ne sais pas si vous allez en profiter pour partir à droite, à gauche ou pour créer du contenu. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est d'arriver vraiment à comprendre cette logique-là et à voir, faites un essai, regardez comment ça change. Travaillez bien et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.